Ok, merci beaucoup David de nous rappeler chaque matin en quoi consiste le GBU Dynamique. Merci aussi à... Est-ce que c'est Naomi qui a prié pour nous, c'est ça? Noémie. Je suis désolé, je connais pas tout le monde. Appuie dans le... Hors du camp, s'il vous plaît. Hein. Pas ici. Merci beaucoup d'avoir prié pour nous. Eh bien, c'est mon dernier mot. Ah ah, alors rassurez-vous, je ne suis pas du tout en train de vous quitter prématurément. Et je ne suis pas non plus en train de m'entraîner à qui veut gagner des millions. Pas du tout, d'accord? C'est simplement qu'au chapitre 31 du livre de Job, que vous commencez à connaître un petit peu maintenant, Job prononce ses dernières paroles, ses derniers mots dans le cadre de son dernier discours. C'est un homme qui souffre, Job, alors qu'il n'a rien fait pour mériter ça. Vous le savez, un homme qui clame son innocence, qui se sent accablé, abandonné par Dieu, vous vous rappelez le chapitre 19, et qui commence à exiger de la part de Dieu des explications. Regardez ce que dit Job dans le cadre de son dernier discours, de ses derniers mots. Job chapitre 31, je vous propose simplement de lire les versets 35 à 40. Job chapitre 31, versets 35 à 40. Job n'en peut plus, il est dans un état catastrophique, il en a marre. Et voici ce qu'il dit au chapitre 31, des versets 35 à 40. Si seulement quelqu'un m'écoutait, voilà mon dernier mot, que le Tout-Puissant me réponde. Quant à la plainte écrite par mon adversaire, je la mettrai sur mon épaule, je la porterai sur mon front comme une couronne, je lui rendrai compte de ma conduite dans le détail, je m'approcherai de lui comme un prince. Si mon terrain crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'ai mangé son produit sans le payer et que j'ai fait le désespoir de mon propriétaire qui y pousse des ronces au lieu du blé et de la mauvaise herbe au lieu de l'orge. Si quelqu'un m'écoutait, voilà mon dernier mot, que le Tout-Puissant me réponde. Dieu, réponds-moi. J'ai assez entendu mes amis, ce sont des médecins sans valeur. Dieu, réponds-moi, je veux t'entendre parler. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends pour me répondre? Pour me donner des réponses? Pour expliquer les raisons pour lesquelles je suis dans cet état alors que je n'ai rien fait pour mériter ça? Strictement rien. Mais Dieu ne lui répond pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Et en attendant sa réponse, c'est un personnage, comment dire, mystérieux qui lui répond. Elihu. Un personnage mystérieux, énigmatique, qui, un peu comme le chapitre 28, arrive comme un cheveu sur la soupe, de manière abrupte dans le livre. Et au sujet duquel, vous pouvez me croire, les commentateurs bibliques sont très, très, très divisés. D'accord ? Que penser premièrement de la présence des chapitres dans lesquels Elihu intervient? Que pensez des chapitres 32 à 37? Eh bien, voyez-vous, certains estiment qu'ils ne font pas du tout partie de l'œuvre originale. Surprenant. Et qu'ils sont totalement inutiles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils retardent inutilement la réponse de Dieu qui va intervenir dans les chapitres suivants. C'est ce que certains pensent. Mais d'autres pensent au contraire que dans ces chapitres 32 à 37, Elihu a un rôle, une fonction narrative bien précise dans le cadre de l'unité globale du livre. C'est clair? Voilà pour la présence des chapitres dans lesquels Elihu intervient. Mais que penser ensuite du contenu de ces chapitres, du contenu des chapitres 32 à 37? Eh bien là encore, certains estiment qu'Elihu manque de compassion, qu'il ne fait que répéter ce que disent les amis de Job, et qu'il est l'auteur de platitudes, de banalités théologiques, qui n'apportent strictement rien au débat. D'autres au contraire pensent qu'Elihu apporte une contribution très originale, qu'il ne faudrait surtout pas négliger. Alors que penser d'Elihu? J'aimerais vraiment qu'au fur et à mesure de notre lecture, nous essayons de discerner ce qu'il est en train de dire. D'accord? Que pensez-vous d'Elihu? Qu'allez-vous penser d'Elihu au fur et à mesure de notre lecture? Alors avant de découvrir ce qu'il dit en détail et d'évaluer la validité de ses propos, notre capacité de discernement va être mise à l'épreuve, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je vous propose simplement de faire connaissance avec Elihu dans un premier temps et très rapidement. Qui est Elihu ? Son nom, vous connaissez peut-être la première partie de son prénom, Eli, ça vous dit quelque chose ? En fait, le mot El, c'est un nom de Dieu, le I, c'est un suffixe personnel, mon Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous vous rappelez, Eli, Eli. Donc, mon Dieu, lui. Elihu veut dire, mon Dieu, c'est lui. Ok, Elihu. D'abord, on apprend que c'est un homme en colère. Regardez les cinq premiers versets du chapitre 32. Job, chapitre 32, versets 1 à 5. Ces trois hommes, c'est-à-dire les amis de Job, cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se considéraient comme justes. Alors Elihu, fils de Barakel, originaire de Buz et membre du clan de Ram, se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu. Et il se mit en colère contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et condamnaient ainsi Dieu. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Lorsqu'il vit que les trois hommes n'avaient plus rien à dire, il se mit en colère. Vous voyez comment dans ces versets, l'auteur est en train de nous dire que Job est un homme en colère contre Job dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que Job a prétendu être plus juste que Dieu, être juste devant Dieu. En fait, ce n'est pas vraiment ce que Job a dit, mais vous voyez, en remettant en question la justice de Dieu, ce que Job a un peu fait malgré tout. Vous vous rappelez, il est un peu poussé mémé dans les orties, il a employé certains termes, il a fait preuve d'une certaine virulence, d'une certaine véhémence à l'égard de Dieu. Vous vous rappelez ? Chapitre 19 et au chapitre 27 notamment. En remettant en question la justice de Dieu, il se considère implicitement plus juste que lui. Donc d'abord, Elihu est en colère contre Job. Mais dans un second temps, il est aussi en colère contre les amis de Job. Parce que leur incapacité à répondre à Job ont en quelque sorte compromis la justice de Dieu que Job avait précisément remis en question. Vous comprenez ce que je veux dire ? Les amis de Job, en fait, Elihu est en colère contre eux parce que leur incapacité à lui répondre, à Job, ont en quelque sorte compromis la justice de Dieu que Job avait remise en question. C'est donc un homme en colère dans un premier temps. Mais c'est aussi un homme pressé, un peu comme dans la chanson de Noir Désir. Vous connaissez cette chanson ? Un homme pressé. Bref. Regardez les versets 11 à 22. Job, chapitre 32, versets 11 à 22. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai prêté l'oreille à vos raisonnements jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de la question. Je vous ai accordé toute mon attention et je constate qu'aucun de vous ne l'a convaincu. Pas un de vous n'a répondu à ses propos. Ne dites pas cependant, nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre et non un homme. Verset 14. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils sont effrayés, ils ne répondent plus, les mots leur manquent. J'ai attendu qu'ils aient fini leur discours. Puisqu'ils s'arrêtent et ne savent que répliquer, à mon tour je vais répondre, moi aussi, je vais exprimer mon opinion. En effet, je suis rempli de paroles, mon esprit me presse. À l'intérieur de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves prêtes à éclater. Je dois parler pour me soulager, je dois ouvrir mes lèvres pour répondre. Je ne ferai preuve d'aucun favoritisme et je ne flatterai personne. De fait, je ne sais pas flatter, mon créateur m'enlèverait bien vite. C'est un homme pressé. Il est où ? Qui a presque besoin de parler pour respirer. Il a vraiment hâte d'exposer sa solution au problème de Job, qui consiste, à mon sens, en trois propositions, trois thèses principales qui se trouvent dans vos livrets, pages 20 et 21. Premièrement, nous allons voir que Elihu dit dans un premier temps, Dieu nous discipline par la souffrance. Dans un deuxième temps, nous verrons qu'Elihu est en train de dire que Dieu nous dirige par sa justice, et dans un dernier temps, nous verrons qu'Elihu est en train de dire que Dieu nous dépasse par sa grandeur. Mais premièrement, Dieu nous discipline par la souffrance. Regardez le chapitre 33, juste 10 versets, les versets 14 à 24. Job, chapitre 33, versets 14 à 24. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent. Alors il prend en dégoût la nourriture, même les aliments les plus désirables. Sa chair dépérit à vue d'œil, ses os qu'on ne voyait pas transparaissaient. Son âme s'approche de la tombe et sa vie des messagers de la mort. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce que sur les 1000 qui annoncent à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la tombe. » J'ai trouvé une rançon. Vous voyez la solution d'Élihu au problème de Job. Dieu parle aux hommes de différentes manières. Ce qui est vrai dans un sens, si vous lisez le premier verset du premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, dans les temps anciens, sous l'Ancienne Alliance, Dieu a parlé de multiples manières. Mais ce que dit l'Épître aux Hébreux, après la mort et la résurrection de Jésus, c'est qu'aujourd'hui, dans ces temps qui sont les derniers, temps qui ont été inaugurés par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu parle de manière suprême par son Fils, par le Seigneur Jésus. Mais c'est vrai que sous l'Ancienne Alliance, Dieu a parlé de différentes manières. Et l'une de ces manières, pour Élihu, c'est quoi? C'est la souffrance dont Dieu se sert pour nous corriger. Voilà la raison pour laquelle Job souffre, selon Élihu. Parce que Dieu veut le discipliner. Parce qu'il veut le corriger. Pour Élihu, la souffrance n'est pas nécessairement un châtiment, une punition, un jugement de Dieu, mais un moyen dont il se sert pour nous avertir du danger qui consiste à faire le mal, pour nous en détourner, pour nous corriger, bref, pour nous discipliner. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette première solution d'Élihu? Dieu nous discipline par la souffrance. D'un côté, je dirais que cette solution est bonne, elle est biblique. Le problème, c'est qu'Élihu ne la donne pas à la bonne personne. Cette solution est bonne, mais il ne la donne pas à la bonne personne. Rappelez-vous, Job n'a en effet rien fait pour mériter tout ça. Il n'a strictement rien à se reprocher. Ses souffrances ne sont en aucun cas la conséquence de la discipline de Dieu. Ce n'est pas du tout ce que le livre de Job dit. Ce n'est pas du tout ce que nous apprend le prologue, en tout cas. D'un côté, j'aimerais vous dire aussi que Élihu fait preuve d'une certaine originalité. J'aimerais beaucoup vous dire ça, mais je ne peux pas. Ça serait faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Regardez ce que dit Eliphaz au chapitre 5, le premier ami de Job. Job, chapitre 5, verset 17. « Il est heureux, l'homme que Dieu corrige, ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. » Voyez, rien de nouveau sur le soleil. Eliphaz a en quelque sorte émis la même possibilité, d'accord? Élihu ne fait donc pas preuve d'une grande originalité, c'est vrai, mais il a quand même le mérite, quand même, contrairement aux amis de Job, de ne pas invoquer une loi impersonnelle. Vous vous rappelez le principe de rétribution? Le karma, une formule mathématique. Élihu n'est pas en train d'invoquer, pour l'instant en tout cas, une loi impersonnelle, mais un Dieu personnel. Un Dieu personnel qui utilise parfois la souffrance, non pas de manière punitive, comme semblent l'impliquer les amis de Job, mais de manière préventive, pour nous discipliner. Et en fait, c'est exactement ce que dit un texte du Nouveau Testament, toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 13. Si vous voulez noter la référence, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 13. Dans ces versets, l'auteur est en train de nous dire que de la même manière que les souffrances de Jésus n'ont pas été vaines, celles des croyants font partie de la discipline de Dieu qui peut les utiliser pour les encourager à mener une vie juste et vécue dans la paix. Autrement dit, la souffrance que vous pouvez endurer dans la vie, la souffrance que j'ai pu endurer dans la vie, n'est pas nécessairement le signe du jugement de Dieu. En fait, c'est tout le contraire. Il se peut que cette souffrance soit parfois la marque de son amour de père. Quel réconfort! Et c'est exactement ce que C.S. Lewis a dit. C.S. Lewis, auteur notamment des Chroniques de Narnia et d'un livre intitulé « Le problème de la souffrance », un très bon livre sur le problème de la souffrance. Et voilà ce qu'il dit C.S. Lewis. Je le cite. L'esprit humain n'est pas prêt à commencer à abandonner son autonomie au moment où tout se passe bien. L'erreur et le péché ont tous les deux cette qualité. Plus ils sont profonds, plus ils sont cachés, ignorés par leurs victimes. Ce sont des mots masqués, cachés. Mais écoutez bien, la douleur, elle, est démasqué, un mal évident. Tout homme sait que quelque chose ne va pas lorsqu'il souffre. Nous sommes capables de nous reposer tranquillement dans notre péché. Mais la douleur nous oblige à y prêter attention. Et cette fameuse phrase que vous connaissez peut-être, « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. » La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Et je me demande si c'est peut-être votre expérience. Est-ce que c'est votre expérience? Si vous avez déjà été confronté à la souffrance dans votre vie, vous avez peut-être eu l'impression que Dieu a utilisé cette souffrance comme un mégaphone pour vous réveiller, pour vous discipliner. Et dans ces moments, la question à lui poser n'est peut-être pas « pourquoi ?» mais tout simplement « quoi ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de ce moment difficile ?» Au travers de cette souffrance. Dans un premier temps, voilà ce que dit Elihu, d'accord ? Dieu nous discipline par la souffrance. Deuxièmement, Dieu nous dirige par sa justice. Dieu nous dirige par sa justice. Alors je vous préviens, avant de lire les chapitres qu'on va lire, dans ces versets, Elihu, qui estime que Job a remis en question la justice de Dieu, ce qui n'est pas faux, à mon sens, reprend ses propos pour les réfuter de manière assez virulente. D'accord ? Là, Elihu n'y va pas de main morte. Okay ? Il ne prend pas de gants. Il est assez virulent dans les versets qu'on va lire. Regardez par exemple le chapitre 34, les 20 premiers versets. Job, chapitre 34, versets 1 à 20. Elihu reprit, « Sage, écoutez mes propos. Vous qui êtes des connaisseurs, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. En effet, l'oreille jauge les propos, tout comme le palais goûte les aliments. Choisissons pour nous ce qui est juste. Sachons reconnaître entre nous ce qui est bon. Job a dit, en effet, je suis juste, et Dieu me refuse justice. Alors que j'ai raison, je passe pour un menteur. Ma blessure est incurable alors que je n'ai pas commis de transgression. Y a-t-il un homme tel que Job qui boive l'insolence comme l'eau, qui marche en compagnie de ceux qui commettent l'injustice, qui fasse route avec les hommes méchants? En effet, il a dit, l'homme ne gagne rien à mettre son plaisir en Dieu. Et écoutez-moi donc, homme de bon sens, Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté, le Tout-Puissant n'a rien à voir avec l'injustice, il paye à l'homme le salaire de ses actes, il traite chacun en fonction de sa conduite. En vérité, Dieu ne commet pas le mal, le Tout-Puissant ne fausse pas le droit. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié le monde entier à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Celui qui déteste le droit pourrait-il vraiment régner? Condamnerais-tu le juste, le puissant? Dit-on au roi, vous êtes des vauriens et au prince, vous êtes des crapules? Lui, il ne favorise pas les chefs et ne privilégie pas le riche face aux pauvres. Parce que tous sont l'œuvre de ses mains. En un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et disparaît. Le tyran est écarté sans aucune intervention humaine. Vous voyez ce que, en substance, Elihu est en train de dire, c'est que Dieu dirige le monde avec justice, de manière impartiale et infaillible. Dieu est juste. Sa justice est garantie par son omniscience. Regardez le verset 21. En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. La justice de Dieu est garantie par son omniscience. Il n'a pas d'observer bien longtemps les hommes pour les juger, verset 23. Il n'a pas besoin de faire une enquête à la NCIS pour remettre tout le monde à sa place. Il sait tout, verset 24. Il entend les cris des plus humbles, verset 28. Dieu est juste. Ce n'est pas parce qu'il n'intervient pas toujours dans la vie présente qu'il n'est pas juste. Il garde parfois le silence. On a parfois l'impression qu'il se cache, mais il finira par intervenir un jour ou l'autre, et de toute façon le jour de son jugement. Le jour où, pour le coup, le principe de rétribution sera bel et bien appliqué. Le jour où il établira sa justice, une bonne fois pour toutes. Le jour où justice sera faite. Dieu nous dirige par sa justice. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de ce que dit Elihu dans cette deuxième partie ? Je crois que dans ces versets, même si Elihu rappelle une vérité biblique absolument fondamentale, et j'espère que vous êtes tous d'accord, Dieu est juste, amen, on pourrait peut-être, si je puis me permettre, lui reprocher d'être particulièrement dur avec Job. Il a la dent dure, vous ne trouvez pas ? Il a vraiment la dent dure contre Job. On pourrait aussi lui reprocher de développer la même théologie que celle de ses amis, finalement, dans le passage que nous avons lu. Le principe de rétribution et de mal l'appliquer dans la vie présente de manière mécanique et immédiate. Et d'oublier de dire, et c'est peut-être là le plus important, que Dieu est juste, c'est vrai, qu'il dirige le monde avec justice, c'est vrai, mais aussi avec amour, avec grand amour, ce qu'il a fait de manière suprême dans l'histoire, sur la croix, en manifestant à la fois sa justice et son amour. Sa justice parce qu'il a condamné Jésus qui portait sur lui le poids de nos péchés. Sur cette croix, Jésus a été considéré comme coupable, il est devenu péché. Nous dit Paul en 2 Corinthiens 5, Dieu a été parfaitement juste, mais il a aussi été parfaitement amour dans la mesure où il a livré son Fils mourir pour nous. Dieu est juste et nous dirige par sa justice. Dieu nous discipline par la souffrance, Dieu nous dirige par sa justice. Troisième et dernière thèse d'Éliou, troisième et dernière réponse au problème de Job, Dieu nous dépasse par sa grandeur. Regardez le chapitre 36, les versets 22 à 33. Chapitre 36, versets 22 à 33. Dieu se montre d'une force inaccessible. Qui peut t'enseigner comme lui? Qui peut lui prescrire la conduite à tenir? Qui peut lui dire « tu as commis une injustice » Souviens-toi de célébrer la grandeur de son activité, les hommes l'ont chanté. C'est que tous les êtres humains peuvent la contempler, chacun la voit de loin. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Il attire les gouttes d'eau qui s'évaporent et retombent en pluie. Les nuages la laissent couler. Il la déverse avec abondance sur les hommes. Qui donc comprendra le déploiement des nuages, le fracas de sa tente? Il déploie autour de lui sa lumière et il recouvre les profondeurs de la mer. C'est ainsi qu'il juge les peuples et donne la nourriture avec abondance. Il cache dans ses mains des éclairs auxquels il fixe une cible. Il s'annonce par son tonnerre et même le bétail presse son approche. Chapitre 37. Tout cela fait battre mon cœur, il bondit dans ma poitrine. Écoutez attentivement les vibrations de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue du ciel, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse, il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse, il fait de grandes choses que nous sommes incapables de connaître. Il dit à la neige, tombe sur la terre, il le dit aussi à la pluie, même aux fortes pluies. Il interrompt ainsi l'activité de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme son œuvre. Nous pourrions continuer. Vous voyez ce que Éliou est en train de dire, encore une fois, en substance? Dieu nous dépasse par sa grandeur. Éliou, comme on l'a vu, c'est un peu le monsieur météo du livre de Job. Le Louis Baudin, le Sébastien Follin, non, il est plus sur TF1, lui. Mais c'est un peu le monsieur météo du livre de Job. Dans ces versets, il fait vraiment contempler à Job la grandeur de Dieu, visible dans la création et notamment dans les phénomènes météo qu'il maîtrise parfaitement, des phénomènes mystérieux, les éclairs. J'ai vu avant de venir au camp un reportage sur la 5, j'avais pas grand-chose à faire, faut dire, sur les éclairs. C'est extraordinaire un éclair. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce phénomène physique? Qu'est un éclair? Est-ce que vous savez jusqu'à combien de kilomètres peut mesurer un éclair? 20 kilomètres. Pensez à ça la prochaine fois que vous voyez un éclair. Est-ce que vous connaissez la vitesse à laquelle peut aller un éclair? 40 000 kilomètres par seconde. Qu'est-ce que Dieu fait de ces éclairs? Il les tient dans sa main. Chapitre 36, verset 32. Il les fait briller. Le tonnerre. Il s'en sert pour s'annoncer. La neige, pensez à la neige. Chaque flocon est différent malgré son apparente similitude. Tous les flocons sont différents malgré leur apparente similitude. Quel phénomène mystérieux! Eh bien, c'est Dieu qui les fait tomber. Chapitre 37, verset 6. La glace, comme Superman, je ne sais plus très bien dans quel épisode. S'il y a un fan de Superman dans la salle, il pourra me dire. Mais vous vous rappelez, quand il souffle et que l'eau se transforme en glace, eh bien là, c'est pareil, comme Superman. Dieu la produit par son souffle et il la fige à la surface de l'eau, chapitre 37, verset 10. Les nuages dont les formes sont en perpétuelle évolution, il les charge d'humidité et les traverse d'éclairs. C'est lui qui fait varier leur évolution selon ses directives. C'est lui qui les fait tenir en équilibre. Dieu nous dépasse par sa grandeur. Le ciel, dont les différentes couleurs sont parfois majestueuses, un coucher de soleil, en Australie surtout, un lever de soleil, en France. Il le déploie, aussi solide qu'un miroir en métal fondu. Vous voyez comment dans ces versets, à mon sens, Elihu est en train de dire que Dieu nous dépasse par sa grandeur, une grandeur visible dans la création, mais complètement incompréhensible. Cette grandeur dépasse tout ce que nous pouvons connaître, 36-26. Qui comprendra le déploiement des nuages et fracas de sa tente? Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse, il fait de grandes choses que nous sommes incapables, strictement incapables de connaître. La seule attitude qu'il convient d'adopter à son égard, Elihu la développera dans la fin du chapitre 37, c'est la célébration de ses œuvres. Est-ce que vous célébrez Dieu pour ses œuvres, pour sa création? C'est la contemplation de ses merveilles. Est-ce que vous contemplez les merveilles de la création? Non pas pour adorer la création, mais le Créateur. Cette création qui renvoie de manière ultime à un Créateur. La seule attitude qui convient d'adopter à son égard, c'est une crainte respectueuse. Est-ce que vous craignez Dieu? Dieu nous dépasse par sa grandeur. Là encore, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est juste? D'un côté, on pourrait vraiment reprocher à Elihu de ne pas vraiment répondre au problème de Job et de lui rappeler encore une fois une banalité, une platitude théologique. Dieu est grand. La Bible le dit. On le sait, Job le sait. Mais dans ces versets, Elihu apporte peut-être la contribution la plus mature, la plus sensible et la plus profonde de son intervention. Dieu nous dépasse par sa grandeur. Dieu nous dépasse par sa grandeur. Quelle est votre vision de Dieu? Dieu est-il grand, très grand dans vos pensées? À quoi ressemble le Dieu que vous adorez? Saint Augustin a répondu à cette question de la manière suivante. Écoutez. Tu es le plus caché de nous et pourtant le plus présent parmi nous. Le plus beau et pourtant le plus fort. Celui qui dure pour toujours et pourtant nous ne pouvons te comprendre. C'est beau, non? Dans un premier temps, Elihu a dit « Dieu nous discipline par la souffrance ». D'accord? Dans un deuxième temps, « Dieu nous dirige par sa justice ». Dans un troisième temps, « Nous dépasse par sa grandeur ». Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez de ces interventions? Que pensez du contenu des chapitres d'Elihu pour essayer de répondre aux questions que nous nous sommes posées? Je suis vraiment curieux de le savoir. Elihu met vraiment notre capacité de discernement à rude épreuve. D'un côté, vous allez me dire qu'Elihu est peut-être un jeune homme arrogant qui semble avoir tout compris. Vous savez, une sorte de monsieur je sais tout, qui a réponse à tout, qui manque de compassion, qui nous rappelle bien parfois des banalités et dont la théologie se rapproche parfois très dangereusement des amis de Job, notamment au verset 34, et qui est, et c'est un argument décisif pour certains, complètement ignoré par Dieu dans l'épilogue. On va lire bientôt l'épilogue ensemble, quelques versets, pas un mot sur Elihu. D'un côté, on peut se dire ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, Elihu, quand même, Elihu est l'auteur de 4 discours, 6 chapitres, ininterrompus. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans le livre. Elihu ne se contente pas, comme on l'a vu, de répéter ce que disent les amis de Job, au moins au début de son intervention. Il n'invoque pas une loi impersonnelle, au chapitre 33, vous vous rappelez, mais un Dieu personnel qui peut nous discipliner par la souffrance. Mais surtout, et pour moi c'est un argument décisif, Elihu c'est quelqu'un auquel Dieu ne reproche strictement rien dans l'épilogue. Contrairement aux amis de Job, dont il condamne les propos, vous vous rappelez, de manière assez ironique. Relisons une dernière fois l'épilogue, le chapitre 42, juste les versets 7 à 9 ensemble. Job chapitre 42, versets 7 à 9. Après avoir adressé ces paroles à Job, Dieu vient de répondre, « L'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez trouver mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. » Où est Elihu dans ces versets? Il est nulle part. Pas un mot sur Elihu. pas un mot sur Elihu. Et la question que je pose, c'est comment interpréter ce silence ? Est-ce le signe de la désapprobation de Dieu ? Ou bien au contraire, le signe de son approbation ? C'est une question que je pose, d'accord ? Et que penser de la présence de ces chapitres dans lesquels Elihu intervient, les chapitres 32 à 37. Vous vous rappelez, certains pensent en fait qu'ils ne font que retarder la réponse de Dieu, qu'ils ne servent à rien et qu'ils ne font en fait pas du tout partie de l'œuvre originale. En fait, que je ne pense que ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'ils ont une raison d'être et que la présence de ces chapitres est très pertinente dans l'unité et la cohérence interne du livre. Je pense qu'Elihu joue non pas un mais deux rôles, non pas une mais deux fonctions narratives très très importante dans le livre. Le premier rôle que joue Elihu, je pense que c'est celui d'arbitre, de juge. En résumant la position des différents partis, Job et ses amis, en citant leurs propos, vous vous rappelez, Job a cité les propos de Job, notamment, et en les critiquant, Elihu récapitule tout ce qui s'est dit depuis le début de la discussion, ce qui n'est pas utile quand même, d'accord, pour faire un point. Et joue le rôle de juge, d'arbitre, qui donne sa solution au problème de Job. Mais cette solution n'est, comment dire, n'est qu'une pâle copie, une très pâle copie de la réponse de Dieu dans les chapitres suivants. Et c'est à mon avis le deuxième rôle, la deuxième fonction narrative que Elihu joue dans le livre de Job, celle de précurseur. Celle de précurseur. Je pense vraiment qu'Elihu joue le rôle de précurseur dans ces versets en assurant une transition idéale avec la chapitre suivant, loin de retarder inutilement la réponse de Dieu qui interviendra. En fait, Elihu nous y prépare. Elihu nous y prépare. La nature théocentrique de ses interventions, théocentrique, centrée sur Dieu. Dieu nous discipline par la souffrance, Dieu nous dirige par sa justice, Dieu nous dépasse par sa grandeur. La nature théocentrique de ses interventions annonce, préfigure et met en valeur la réponse de Dieu que nous allons entendre demain. Patience. Et prions. Notre Dieu, notre Père, nous te célébrons pour ce que tu es, un Dieu qui nous discipline parfois dans la souffrance, un Dieu qui nous dirige de toute manière par ta justice, un Dieu qui nous dépasse par sa grandeur, un Dieu personnel, un Dieu juste, un Dieu grand. Notre Dieu, notre Père, nous prions pour que tu nous aides à avoir une plus grande vision de toi, sois grand dans nos pensées, s'il te plaît. Aide-nous à fixer nos yeux sur toi au milieu de la souffrance, en toutes circonstances, et prépare-nous à entendre ta réponse, à t'entendre parler demain, pour que nous puissions apprendre à t'apprécier, à te connaître, à t'aimer, à t'adorer et à te servir. Et tout cela, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci beaucoup de votre attention. Je vous avais promis trois thèses sur la relation entre le péché et la souffrance par Don Carson. J'en ai fait des photocopies. Elles sont à votre disposition pour la modique somme de 200 €. Non, je rigole, gratuit. Ok. Sommes-nous aussi capables de tenir ce rôle de juge d'arbitre dans une situation pareille ? C'est une bonne question. Je pense que le livre de Job ne nous y invite pas. Mais c'est vrai qu'on a peut-être aussi le devoir et la responsabilité de, en fait, simplement d'écouter ce que les autres ont à dire, d'écouter ceux qui sont dans la souffrance, surtout pas de les juger, surtout pas, mais de les aimer, oui, de les écouter, oui, de pleurer avec eux, oui, de prier avec eux. Oui, mais c'est vrai qu'Elihu, vous savez, j'ai un ami en Australie qui a fait son mémoire de maîtrise sur Elihu et qui a bien mieux compris le rôle d'Elihu que moi et qui pense qu'en fait Elihu est très très arrogant. Selon lui, Elihu prend la place de Dieu. D'accord ? Il ne fait pas simplement, il ne préfigure pas seulement ses paroles, en fait il se met à sa place. Il dit voilà ma réponse à ton problème, Job. Et dans ce cas-là, c'est un vrai danger de penser qu'on a la réponse au problème. Celui qui a la réponse, au final, c'est Dieu. Et Dieu seul, c'est lui qui a le dernier mot. Maintenant, s'il peut nous utiliser pour aimer, pour écouter, pour prier, pour pleurer, pour encourager. Amen. Mais pour juger, Je ne pense pas que la Bible nous y invite. Et Élihu, c'est vrai, est quand même fait preuve parfois d'une certaine arrogance. Hein. Donc méfiance. D'un côté, il dit des choses vraies sur Dieu, qui l'honore. C'est pas facile. Oui, Dani. Ouais, peut-être pas Élihu directement, mais je voulais faire juste cette précision quand Élihu dit au chapitre 36 des versets 5 à 7 que Dieu juge finalement et que ouais, il établit la justice. C'est vrai que j'ai fait une extrapolation et j'en ai profité pour parler du jugement de Dieu. Dans ces versets sont peut-être une préfiguration hein, parce que les jugements que l'on peut vivre sur terre sont parfois une préfiguration du jugement universel qui aura lieu à la fin des temps et le jour où la justice sera vraiment rétablie. Ouais. Mais c'est vrai que Élihu ne parle peut-être pas directement du jugement dernier dans ces versets, c'est juste. Merci. Ouais, Agnès. Ouais. Ouais. Ouais, j'en ai aussi profité pour parler de Jésus, excusez-moi. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Donc la question, c'est, ouais. Ok, on m'a fait signe de faire un break, c'est pas du tout que je veux pas répondre à la question, mais on peut en parler après, ok. Mais je crois que de toute façon, ouais, l'Ancien Testament annonce l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus de toute façon, de multiples manières, et que c'est vrai, quoi. Mais on en reparle. Merci. Je suis désolé, mais on doit s'arrêter.